Et voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Il est 18h03 sur l'horloge de la radio et ce soir je suis en compagnie d'une petite partie des Gilets jaunes de Chevrières. Bonjour messieurs, que des garçons, une fille également dans nos studios mais elle veut pas prendre de l'antenne. Souvent les filles sont un peu plus timides face au micro.
Bon, faut pas parler trop vite, hein, attention. Bonjour à tous.
Alors du coup faut bien prendre le micro devant la bouche pour bien parler avec le principe c'est ça. Donc vous êtes à Chevrières, on fait un petit tour de table pour pouvoir identifier vos voix et vos noms. Qui êtes-vous? Depuis combien de temps êtes-vous du coup installé à Chevrières?
Alors salut à tous, bonjour à tout le monde, je m'appelle Nicolas et je suis donc je fais partie du groupe des Gilets jaunes de Compiègne et on est installé à Chevrières. Personnellement j'y suis depuis le départ, c'est-à-dire depuis le 17 novembre.
Très bien, tu fais quoi dans la vie normalement?
Moi je suis consultant international.
Très bien, suivant.
Bonsoir, je m'appelle Claude, alors moi je suis salarié de l'industrie dans le cosmétique et j'ai pris contact avec le groupe pour la première fois le 26 octobre et je suis investi dans le mouvement donc depuis le 17 novembre.
Ouais, bonsoir à tout le monde, moi c'est Geller, donc malheureusement je n'ai pas de travail car en invalidité et pareil je suis dans le mouvement depuis le début, depuis le 17 novembre.
Pourquoi êtes-vous entré dans ce mouvement? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'organisation de la lutte, dans tout ce qui se passe autour du camp, les actions, la manutention, tout ce qui se passe un petit peu?
Bah on vit quand même dans un drôle de monde, non? Tu penses pas? Je pense que notre cher président, notre cher Manu, là, je pense qu'il va un peu trop loin. Même si la merde, elle est là depuis une quarantaine d'années, il va un peu trop vite en faisant pression sur le peuple et surtout sur le fric. Et on en a marre.
L'élément déclencheur? Souvent, on parle de la taxe sur les carburants, de la taxe carbone.
Ça c'est un détail qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, c'est un cumul de choses qui font que les gens en ont ras-le-bol. Et je tiens, d'ailleurs, je le passe du dit, on est des gentilles personnes, les gens. On n'est pas méchants. Jamais on est méchants. On n'aime pas les casseurs. Oui, voilà. Si je peux me permettre de parler pour ma cause, moi, c'est le ras-le-bol fiscal. J'en ai ras-le-bol d'être matraqué parce que je fais partie de la classe moyenne. J'en ai ras-le-bol d'être taxé. Et voilà, j'en ai ras-le-bol. Et l'injustice concernant nos anciens, je pense notamment mes parents retraités, qui, limite, bientôt, ils sont à la rue, parce que, voilà, on leur taxe la CSG, et de plus en plus, ils ont de moins en moins, de pouvoir d'achat, et c'est juste pas possible. Et au niveau de la santé, il n'y a plus de services publics. Ma femme étant aide-soignante, je vois dans quelle misère elle bosse. C'est des heures de fou pour être payé une misère, alors que ça devrait être des gens qui devraient être mis en avant, au même titre que les pompiers. Je n'accepte pas non plus que d'ailleurs, on leur caillasse la gueule, et tous ces gens-là, on est tous une famille, et on s'est tous retrouvés par rapport à un tronc commun.
Quand tu parles de ras-le-bol fiscal, mais votre femme est également aide-soignante, du coup le service public, comment on fait pour avoir du service public? Il faut mieux répartir cet impôt, il vaut mieux, c'est quoi la solution?
Il faut aller chercher l'argent là où il est, je pense. Moi je pense aux 80 à 100 milliards d'évasion fiscale. Moi, principalement, ce qui m'a motivé à rejoindre le mouvement, c'est ce sentiment d'injustice permanente, d'injustice sociale, hein, principalement. Parce qu'on a énormément de nos concitoyens qui vivent dehors, énormément de nos retraités qui ont du mal à s'alimenter, malgré qu'ils aient travaillé toute leur vie. Les revenus qu'ils perçoivent sont dérisoires, misérables. Et à côté de ça, on s'aperçoit que les augmentations ne cessent jamais. Alors le gasoil, c'était une des raisons premières qui a fédéré tout le monde autour d'une cause. Mais aujourd'hui, on peut encore voir que c'est l'alimentation maintenant qui prend 6 à 10% sur la plupart des denrées nécessaires au bien-être et au bien-vivre des gens. Donc voilà, moi mes motivations elles sont celles-ci quoi. À savoir que moi j'ai un salaire décent, je ne me plains pas du tout. Pour combien de temps, je ne le sais pas encore, mais pour le moment tout va bien. Mais moi vraiment c'est par solidarité et principalement pour mettre un terme, oui, essayer de mettre un terme à cette injustice que l'on subit. Moi j'ai 42 ans, j'ai l'impression que ça fait un certain nombre de décennies qu'on ne gagne strictement plus rien, socialement parlant.
Donc c'est vrai qu'il n'y a plus de lutte sociale qui a été gagnée, notamment les retraites, la loi El Khomri, tout ce genre de choses.
Exactement.
C'est vrai que les syndicats, depuis longtemps, il n'y a pas eu une grosse victoire. Tout est passé en force quasiment. Ouais. Hein. Et pour vous, Geller?
Moi, très simplement, déjà, je veux juste revenir sur un point. On dit souvent, on est dans la rue par rapport à la taxe carbone, ce qui, comme a dit Nicolas, ça c'est juste une goutte d'eau, donc c'est assez restreint d'avoir cette idée-là. Si on est dans la rue maintenant, c'est uniquement parce que je pense que le peuple français a l'habitude de se faire taper dessus et du coup n'a plus vraiment l'occasion de pouvoir réellement s'exprimer. Et du coup, je pense que les gens, ils attendaient qu'il y ait un mouvement qui se lance. Jusque-là, il ne s'était pas lancé. Il n'y a pas vraiment eu énormément de mouvements syndicaux qui ont été vraiment suivis, et en tout cas pas ensemble. À chaque fois, c'était un jour, il y a les infirmiers, un jour, c'est les autres, un autre jour, c'est les routiers, au lieu de se battre ensemble. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand quelqu'un a eu enfin le cran de pouvoir lancer ce mouvement qu'est les Gilets jaunes, bah, les gens se sont dit « Ah, là, on va peut-être commencer à suivre ». Alors, peut-être pas assez grandement, on a quand même 80% de la population qui sont avec nous. Malheureusement, on est vraiment une minorité qui sommes encore dans les rues. Mais après, moi, ce qui me pousse à suivre ce mouvement, encore une fois, ce n'est pas non plus ma cause. Je veux dire, en étant en invalidité, on ne gagne pas grand-chose. Et en changement de système, en changement de président, en changement de ce qu'on veut, bah, je resterai dans la même situation. Après, moi, ce que je vois, je rejoins un peu Nicolas aussi, c'est que mes parents sont retraités, travaillent toute une vie, ils ont du mal à finir les fins de mois. Ça, ce n'est pas normal. Donc bientôt, ils ne peuvent même plus se déplacer pour aller faire leurs courses, ce qui est encore moins normal quand on voit ce qu'ils font par rapport aux voitures. En plus, avec beaucoup d'incohérences, peut-être qu'on reviendra dessus tout à l'heure par rapport aux voitures et l'environnement, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vois aussi mon frère qui a acheté un commerce, mais il est submergé de taxes et de charges. Il ne peut même pas embaucher quelqu'un, même s'il le voudrait, il ne peut pas. Et on parle aujourd'hui de chômage qui augmente, ce qui est assez aussi incohérent. Et j'ai une sœur qui est mère au foyer, obligée d'avoir deux voitures pour emmener les enfants à l'école, ou alors son mari qui travaille qui a la deuxième voiture. Mais vu ce qu'ils sont en train de nous faire par rapport à la voiture diesel, vont finir par ne plus pouvoir acheter, de faire de plein en tout cas, et donc ne plus se déplacer. Ça devient très incohérent. Et on se rend compte qu'au niveau des partages, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider ceux qui ont de l'argent et beaucoup de choses qui sont faites pour démunir ceux qui n'en ont pas.
Donc une redistribution claire des richesses, quoi.
Ah bah très clairement, oui.
Une remise à plat. Et...
Très clairement.
Là, aujourd'hui, c'est vrai que quand on était sur le terrain, on a été faire des Facebook Live avec la radio sur les camps, notamment à Ressons-sur-Main. Beaucoup de retraités présents, souvent des premières luttes. Comment vous l'expliquez, vous, qu'il y ait autant de retraités qui viennent et qui viennent tenir... qui viennent tenir le feu.
Bah déjà, je pense qu'ils ont déjà un premier aperçu, parce que si ce sont des retraités, c'est forcément qu'ils ont connu mai 68, donc ils ont déjà un petit avant-goût de ce que ça peut être une révolution, parce que là, aujourd'hui, je pense que c'est une révolution. Malheureusement, encore une fois, comme disait Gaylor et comme disait Claude, on n'est pas encore assez nombreux, et pourtant, 80% des gens nous soutiennent. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ne nous regardez pas, rejoignez-nous!
Là, la convergence des luttes, vous avez rencontré les syndicats compiénois cette semaine. Justement, cette convergence entre dans les entreprises, les gens qui sont sur les ronds-points, c'est quelque chose qui peut faire vraiment avancer le mouvement. Comment vous le voyez, de quel œil vous voyez ce
En fait, c'est très simple, c'est ce que souvent moi j'explique. Les gens nous disent, ouais, vous êtes un petit peu vendus parce qu'on se lie entre guillemets au syndicat, ce qui est faux, on ne se lie pas au syndicat. Il ne faut pas oublier que le syndicat est formé de syndiqués qui, eux, sont gilets jaunes. C'est parce qu'ils sont ouvriers. Il ne faut pas oublier que dans nos revendications, on a des revendications pour défendre les ouvriers. Donc forcément, les syndiqués sont gilets jaunes. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a personne qui relie personne. Ils sont déjà avec nous. Alors je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas être avec eux. Simplement, ça amène de la masse en plus, parce que du coup, ils n'osaient pas venir vers nous, parce qu'on ne veut pas des syndicats de base. C'est ce qui a été dit. Et sauf alors, qu'aujourd'hui...
Et vu l'image qu'on nous a pu nous donner, nous, gilets jaunes, attention, il y a aussi une crainte de ces gens-là, de cette part-là.
Ouais, justement, j'allais en venir sur la fin. Donc ces gens-là ont du mal à venir vers nous parce qu'on ne voulait pas des syndicats. Mais encore une fois, ce qu'on ne veut pas, moi je le dis haut et fort, et je n'ai pas peur de le dire là à l'antenne, c'est leur tête. Leur tête est pour nous corrompue. On a juste à regarder, il y a une grève vis-à-vis des policiers. Hop, une réunion, il ne se passe plus rien alors que les policiers n'ont rien obtenu. Sur les routiers, bon, c'est encore une autre histoire. Mais on voit aussi, dès l'instant qu'on donne une petite miette, bing, il n'y a plus rien. Comment faire confiance, nous, aux syndicats? En revanche, on est complètement avec les syndiqués qui, eux, sont complètement avec nous. À partir de ce moment-là, pourquoi nous empêcher d'avoir ces gens-là qui puissent nous aider à faire grossir le mouvement? Pour un mouvement qui soit des ans s'essouffle d'ailleurs, montre qu'on est de plus en plus nombreux.
C'est un problème qu'on avait vu notamment avec Continental où du coup tous les syndiqués étaient présents sur le piquet de grève, mais c'est vrai que la direction syndicale en national avait un peu du mal à leur dire bon. Alors que là, c'était une des vraies luttes sociales qu'il y a eu dans les dernières années, c'est l'argent qu'ils ont pu récupérer avec ce départ de Continental.
Exactement. Et là où je vais rebondir sur ce que disait Nicolas, c'est au niveau de l'image, c'est assez incroyable aujourd'hui qu'on nous dise 80% des Français nous soutiennent. Mais que la plupart ont une image de nous, de casseurs, d'agresseurs, de personnes violentes. Ça, j'ai du mal à le concevoir parce que je pense qu'il y a quand même des images qui sont assez parlantes. Alors, on va éviter de parler de BFM, de toutes ces chaînes de télé qui veulent montrer ce qu'ils ont bien envie de montrer. Pro-macronistes, moi, c'est comme ça que je les appelle. Puis je pense que l'ensemble d'entre nous les appelle comme ça. Il suffit de regarder les images qu'il y a sur les lives Facebook que nous faisons tous, tout le temps, à longueur de journée, quand on manifeste ou lors des actions. Ça se passe toujours très bien. Nous, on est dans un groupe, donc les Gilets jaunes de Compiègne, situé à Chevrières, ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, entre guillemets, n'hésitez pas à venir nous voir sur les ronds-points. Vous serez les bienvenus. On vous sert le café, il y a des gâteaux. On pourra vous accueillir et expliquer ce qu'on fait sans aucun problème. Donc ça, je donne une invitation pour tout le monde. Mais encore une fois, donc sur nos lives, vous avez juste à regarder. À aucun moment, vous voyez une agression de notre part. On fait même partie de ceux, et parmi beaucoup de gilets jaunes, qui, lorsqu'on voit un casseur qui tape dans des vitres, on va l'attraper pour lui dire d'arrêter, voire même de sortir du cortège. On a aujourd'hui, depuis le 17 novembre, zéro incident.
Est-ce que justement la violence ne peut pas être un outil politique ? Parce que est-ce que réellement la marche traditionnelle, de la manifestation traditionnelle, est-ce que réellement on peut se faire entendre ? Est-ce que justement cette casse, alors même si évidemment on essaie de dire oui, si on se met du côté de la violence, tout de suite c'est mal, etc. Mais il n'y a aucune révolution qui s'est faite sans violence. Il y a des violences qui peuvent être légitimes, qui peuvent devenir légitimes. Comment vous le voyez, vous, justement, un peu l'instrumentalisation de cette violence ?
Alors moi personnellement, je ne suis pas partisan de la violence et je ne le serai jamais. Par contre, je suis partisan de la légitime défense. Maintenant, c'est devenu une habitude et ça paraît assez normal à tout le monde que des personnes qui s'expriment dans la rue pour revendiquer des droits fondamentaux se retrouvent à se faire gazer systématiquement en fin de manifestation, se fassent tirer dessus au flashball. Je rappelle que 14 personnes ont perdu un œil. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte que ce que c'est que de vivre avec ce genre de handicap. On est quasiment à 2000 blessés pour un mouvement qui, depuis le début, prône le pacifisme, c'est quand même inédit. Et à côté de ça, pour tous les gens qui parlent des casseurs, j'aimerais juste leur faire une petite réflexion. Pourquoi les médias parlent en permanence des Black Blocs ? Ces gens-là sont tous connus, fichés, archi-connus, et malgré tout, ils atteignent toujours les points de rassemblement. Alors que nous, avec un simple gilet, on se retrouve en garde à vue. Et quelquefois, moi, pour ma part, personnellement, je l'ai vécu, on peut se retrouver en garde à vue sans même avoir un gilet. Donc, qu'on m'explique comment ces gens-là peuvent rejoindre les regroupements alors qu'ils sont connus. Je pense que, pour être honnête, la violence, elle parle pas pour le mouvement des Gilets jaunes, parce que nous, on a toujours prôné le pacifisme. Elle parle pour le gouvernement. Ça lui permet de prendre des nouvelles mesures, comme la loi anti-casseur qui vient d'être votée, qui est clairement une loi anti-Gilets jaunes, hein, sachons-le. Et les gens qui se félicitent de ça, je voudrais leur rappeler que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Si on commence à revenir sur les droits qui ont été établis pendant la Constitution, qu'est-ce qui reste de notre démocratie, au final ?
Il y a eu, quand Emmanuel Macron était surtout élu pour un peu le désamour du Front National, en gros c'était soit vous avez Emmanuel Macron, soit vous avez Marine Le Pen, soit vous avez le Front National. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas en train de faire justement un terreau très propice au Front National, notamment cette loi anti-casseur, où demain si l'extrême droite passe, on est homosexuel, noir, syndiqué, on pourra se faire interdire tout simement de manifester. Est-ce qu'il n'est pas en train de travailler un peu pour le Front National finalement Emmanuel Macron d'après vous ?
Bah, il travaille complètement pour. En fait, il fait en sorte que nous, on ait cette image-là. Depuis le début, de toute façon, on entend un peu tout et n'importe quoi. On est raciste, antisémite, on n'aime pas les gays. Enfin bref, on entend un petit peu de tout, mais il suffit de venir sur nos ronds-points et de voir qu'il y a vraiment tout type de personnes, qu'ils viennent d'origine maghrébine. On a tout le monde. Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre ça. Et encore une fois, si vraiment, ils le savent, dans les chiffres, 80% des Français nous soutiennent. Donc dans le cœur, ils sont gilets jaunes, à mon sens. Comment on peut dire que 80% des Français sont antisémites, c'est juste impossible et incohérent. Donc encore une fois, tous les propos sont faits pour nous discréditer. Moi, je veux juste rebondir, excuse-moi, sur ce qui a été dit juste avant par rapport au niveau des agresseurs et de la casse. Je veux juste rappeler un truc, moi, une expérience que j'ai eue sur Paris, c'était au niveau de l'acte 3. On était tous parqués avenue Friedland, donc qui est très proche de l'Arc de Triomphe. Ils nous laissent rentrer. Alors, c'était un petit peu bizarre. On puisse rentrer aussi simplement comme ça dans une avenue, sans fouille, sans rien du tout. On est parqué. Et une fois que l'avenue est presque pleine de gilets jaunes, alors encore une fois, d'après BFM, nous étions à peu près 2000, alors que l'avenue est pleine. Quand c'est la Coupe du Monde, on parle en millions. Quand c'est nous, c'est en milliers et encore. Donc, l'avenue est pleine. On voit les CRS qui bloquent toutes les rues sur les côtés et ils sont devant. Derrière, rien. Une fois que c'est plein, bing, ils ferment derrière, ce qui fait aucune porte de sortie. Au bout d'un quart d'heure, quand ils ont fermé derrière, les premiers gaz arrivent. Au bout d'un moment, c'est comme l'expérience de la souris qui est bloquée dans un seau et qu'on chauffe, elle va tout faire pour essayer de sortir. Nous, là, on est complètement bloqués avec aucune issue. Toutes les issues sont fermées. Donc, normalement, en plus, ça, légalement, c'est interdit. Ils l'ont fait quand même. Ils nous gazent. Au bout d'un moment, il faut sortir. Il faut trouver une porte de sortie. Au bout d'un moment, il faut bien essayer de forcer un barrage de CRS parce qu'on prend des gaz de tous les côtés. Donc forcément, vu qu'on commence à répondre, eux commencent à encore plus gazer. Et au bout d'un moment, c'est n'importe quoi, ça devient un carnage. Encore une fois, si jamais on nous laissait manifester juste à faire nos chants, à montrer ce que nous, on veut revendiquer, ça se passe toujours calmement. On le voit ces derniers samedis où toute l'après-midi, on nous laisse marcher, on nous laisse faire. Ça se passe calmement, on ne voit aucun policier. Il n'y a aucune casse. arriver à toujours entre 16h et 17h, ça commence à gazer, bizarrement, ça casse dans tous les côtés. Alors si on ne venait pas nous chercher et nous provoquer, je pense que les gens, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on ne fait que de se défendre.
Là, ça a radicalisé un petit peu certaines personnes qui n'étaient pas du tout radicaux. Quand on prend 3 coups de matraque et 15 coups de gazeuse...
Alors, je ne dirais pas radicalisés. Radicalisés sont ceux qui viennent pour casser. Moi, bah, je dirais juste de l'autodéfense.
En fait, radicalisé dans le sens étymologique, c'est la racine. Donc, c'est plutôt... on devient un peu primaire et puis...
On ne devient pas primaire. Nous, on fait juste de la défense.
C'est un sentiment humain.
C'est un sentiment humain, absolument.
Nous, on ne fait que de se défendre. À l'heure d'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la loi anti-casseurs. Une loi qui me fait bien rigoler parce que, en fait, elle aurait pu être votée depuis très, très longtemps. Non, là, c'est une loi qui n'est pas... Ils ont donné un mauvais nom. Elle aurait dû s'appeler anti-gilet jaune. Aujourd'hui, on ne peut pas... Alors, c'est assez marrant, mettre une écharpe devant sa bouche. Il fait quand même froid. Au bout d'un moment, c'est normal qu'on ne veut pas avoir froid. On se protège. Et malgré tout ça, on peut finir en garde à vue parce qu'on a mis ça. La loi, je vous rappelle quand même, que si je me souviens bien, c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende pour avoir mis une écharpe.
Et une petite anecdote par rapport à ça, excuse-moi Geller, c'est qu'on a quand même dans notre groupe notre ami Miguel, hein, c'est le gars qui a sauvé le CRS du lynchage sur Paris
qui
pendant l'acte 3,
c'est ça,
tout à fait.
Exactement.
Hein, on en revient exactement au même, son slip, il ne peut pas servir de lance-pierre, ça sert de slip, voilà tout simplement.
Vous avez eu l'inverse des policiers qui vous ont aidé, ce qu'on a vu des images sur internet où on voit des flics qui mettent du sérum physiologique sur des manifestants, c'est arrivé au début du mouvement, ça c'est pas le cas, enfin d'après, enfin vous
ressentiez. Moi dans les groupes où j'étais en tout cas c'est pas arrivé, après encore une fois je ne jette pas la pierre à tous les CRS, oui certains nous parlent correctement, d'autres pas du tout, là j'ai l'exemple de samedi dernier où on nous a dit clairement vivement que la loi passe pour qu'on puisse vous choper, ouais très intelligent. Mais après, on ne les met pas tous dans le même panier.
Parce que j'ai vu notamment, quand j'étais sur Resson-sur-Mât, des gendarmes qui sont venus, qui étaient plutôt... ils étaient de toute façon là pour temporiser, prendre des infos, qui étaient très cordiales, qui parlaient très bien et qui étaient souvent assez bonne oreille de vos revendications.
Ah, mais sachez que localement, nous, ça se passe vraiment très très bien, que ce soit avec la gendarmerie de la Croix ou alors même sur la police de Compiègne. Ça se passe toujours très très bien, même petite anecdote assez sympathique. Des fois, le matin, parce qu'on dort aussi sur les camps, le matin, on voit, alors je le dis quand même, je ne sais pas si ça va leur plaire, mais parce que pour l'image, mais la gendarmerie qui est venue nous ramener des croissants, pain au chocolat, et on leur sert le café et on parle tous ensemble.
Non, mais c'est bien parce que la police n'est pas forcément là que pour la violence. Normalement,
non, non,
là pour,
voilà. Localement, ça se passe très très bien. Vraiment, quand on parle de répression, c'est vraiment au niveau des manifestations sur Paris, où là on ne comprend pas, enfin, ou Paris, ou même Beauvais, on a subi ça sur Beauvais.
Ou sur les autres grandes villes, à Bordeaux.
Dès l'instant qu'on manifeste, on finit toujours par en prendre plein la tête. Alors je vais juste donner la petite anecdote sur Beauvais, où on a quand même notre groupe de gilets jaunes, parce que bon, on est des illettrés attardés, apparemment, on ne sait pas réfléchir. On a quand même réussi à encercler les CRS. On aurait pu très bien les lyncher, vu qu'eux nous le font. Et non, on les a juste, ils ont été encerclés. Et personne ne leur a rien fait. Alors, il y a eu des petites moqueries de lancer, ce qui est normal. Mais ils n'ont rien eu. Ils ont pu repartir assez tranquillement. Ces mêmes CRS, 10 minutes, un quart d'heure après, taper sur la foule, taper sur les gilets jaunes. Nous, on en a quand même qui ont reçu flashball. On a un monsieur... il a quel âge, Jean-Claude ?
60 ans.
Il a plus de 60 ans, ouais. Qui s'est fait matraquer alors qu'il ne bougeait pas. Non, c'est quand même... on voit quand même où allait la répression. On voit très bien où est l'agressivité. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, les gens répondent. Et je précise bien, on répond, on n'attaque pas. Donc on ne fait que de se protéger.
On va un peu parler de vos revendications, parce que c'est vrai que ce n'est pas que la violence et les manifestations,
exactement,
les gaz, etc.
Et on n'est pas des casseurs de flics, ne l'oubliez pas non plus.
Là, justement, ça peut être quoi la rupture pour que le mouvement prenne de l'ampleur? Et c'est le moment où les flics viennent du côté des manifestants et deviennent de simples citoyens. Vous pensez que c'est possible de voir des... Alors on a vu, pareil, sur Internet, sur Facebook, notamment des CRS retirer leur casque face à des manifestants. Vous pensez qu'il peut y avoir cette symbiose entre le peuple et du coup sa police?
Ben, un jour, effectivement, ça peut péter s'ils usent de leur droit de réserve. C'est clair que Manu, s'il les fout tous à genoux en les faisant crever comme il fait, les mecs, ils peuvent même plus aller pisser, ils peuvent pas prendre de pause, ils sont obligés de se pisser dessus. Et pour avoir été présent à l'acte 4 sur Paris, les gens, comme disait Gallor, qui nous nassent, voilà, ces CRS là, les gars, c'est des petits jeunes, ils ont une trouille bleue, mais ils respectent l'ordre, ils font corps de l'armée, de la police. Voilà, ils ont des ordres à appliquer. Le mec, il sait très bien que s'il ne le fait pas, c'est dehors, c'est la rue. Il a aussi des enfants, il a aussi une famille à faire bouffer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà, oui, pourquoi pas? Un jour ou l'autre, il y en a qui vont vriller. Il y a combien de cas de suicide chez ces gens-là? Depuis tout ça?
Un tous les deux jours.
Oui,
c'est quand même gravissime.
Là, aujourd'hui, vous demandez, c'est quoi les premières revendications Si demain, on avait une baguette magique, Emmanuel Macron était là, et s'il devait accepter 3 revendications, ce serait lesquelles?
Moi, je vais être beaucoup plus simple, en fait, parce qu'on nous parle de ces 42, je crois, revendications officielles des Gilets jaunes. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, on a essayé la droite, ça n'a pas marché. On a essayé la gauche, ça n'a pas marché. On essaye le milieu, c'est encore pire. Au bout d'un moment, le seul point commun, c'est que faut changer le système politique qui est en place, faut changer la Constitution, ce qu'on appelle, nous, la 6e République. À partir de ce moment-là, toutes les revendications vont en découler, en mettant ça à plat. Donc moi, je n'ai pas 56 revendications, j'en ai pas 100, j'en ai qu'une. C'est le changement de constitution et un nouveau système politique qui devrait être mis en place.
Du coup, c'est clairement passer sortir du capitalisme, parce qu'en fait, c'est un peu ça le problème, c'est l'argent, la course à l'argent. Donc si on met des mots, c'est pas forcément des gros mots, c'est le capitalisme, quoi.
Voilà, non mais exactement, c'est ça le problème. Et redonner aussi un petit peu de pouvoir au peuple, mais comme il aime bien le dire, au bas peuple.
Ouais, alors ça c'est drôle, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, c'est la démocratie participative, mais de fait la démocratie normalement elle est déjà démocratique.
Oui, mais on se rend bien compte qu'on a un gros, très gros problème de représentativité. En fait, je pense que ce qui est à remettre en cause, c'est ce fameux système pyramidal qui fait qu'une fois que les gens sont tout là-haut, ils oublient complètement ceux qui les ont fait élire, quoi, ceux qui sont à la base même.
Des pouvoirs révocables, c'est envisageable quelqu'un, genre un élu, un député, qui fait pas bien son travail. Là, on l'a vu notamment avec la loi anti-casseurs. Maintenant, les noms sont sortis. Tous les députés de l'Oise ont voté pour, sauf Pompili qui s'est abstenu du coup dans la Somme. Mais du coup, c'est quoi? C'est qu'on puisse les révoquer au cours de leur mandat sans attendre le quinquennat complet?
Ah bah, s'ils font pas leur job, dehors, tout simplement. Et il faut poser la question au peuple.
Ce serait peut-être un vrai moyen de contrôle, oui.
Il y a un truc qui est simple, de toute façon, quand on dit on devrait pouvoir leur retirer leur poste, il suffit de regarder. Moi, je connais bien M. Vatin, donc je suis un peu pas très content qu'il ait voté cette loi, malheureusement. Mais bon, après, chacun ses idées, je respecte. Hein, on échange là-dessus, mais je respecte chacun ses choix. Mais,
il vous a reçu, en plus, je crois. Il est venu vous voir.
Nous voir sur les ronds-points. Mais je dialogue aussi régulièrement avec lui. Donc, c'est quelqu'un de très ouvert avec qui on peut parler et surtout débattre, souvent débattre. Et là, par exemple, on en a parlé. Et sur une loi importante sur la justice, ils l'ont faite entre 2 et 3 heures du matin. Ils étaient 160 députés présents sur 577. Comment on peut me parler de démocratie quand une loi s'est votée à même pas 20% de l'hémicycle total? La démocratie, pour moi, n'existe pas. Enfin, en tout cas, dans ce cas-là, parce qu'une démocratie, c'est à la majorité. 20% n'a jamais été la majorité. Et je vais rebondir encore, on parlait de revendications. J'ai du mal à concevoir qu'aujourd'hui, le vote blanc ne soit toujours pas comptabilisé. Parce que souvent, on nous dit sur les ronds-points, ou alors quand on fait une action...
Vous avez voté.
Ah, on nous dit, le peuple a voté. Non, encore une fois, le peuple a voté par défaut. Ceux qui ont voté Macron... Il y en a la plupart, c'est pour faire un barrage à Marine Le Pen, au Front National. Ce qui veut dire qu'en plus, dans les 26% qui ont voté, parce qu'en réalité, c'est que 26% des Français qui ont voté pour lui,
il y en a 26% des inscrits qui ont voté.
Voilà,
c'est différent, c'est pas 26% des Français.
Ouais, vous avez dit, ça fait encore moins, on est bien d'accord. Donc ça fait même... on va diminuer encore le chiffre, ouais. Le pauvre, j'étais encore gentil avec lui. Mais il y en a encore moins, parce qu'il faut retirer ceux aussi qui lui ont fait barrage par rapport au Front National. Moi, ça n'est pas très représentatif. Si déjà ce vote blanc était comptabilisé, il ne serait jamais président aujourd'hui. Donc qu'on ne me dise pas que les votes ont fait qu'il est président. Pour moi, ce n'est pas démocratique.
Là, le référendum d'initiative citoyenne, il va y avoir une conférence qui va se dérouler, je vais vous retrouver les dates, c'est le 15 mars à Clermont-de-l'Oise avec Étienne Chouard, Philippe Pascaud et Léo Giraud. C'est organisé par Agora, ça sera le numéro 2 et ça sera gratuit, donc si vous voulez avoir des infos, il y a une page Facebook qui s'est créée, donc on va recevoir normalement par téléphone Philippe Pascaud en interview. Vous pensez vraiment que le référendum d'initiative citoyenne, ça peut marcher? Est-ce que c'est pas les gens qui ont l'argent qui vont faire pencher la réponse du bon côté de la balance?
Ça, les lobbyistes, ça a toujours été notre ennemi public numéro un. Ce sont eux les ennemis publics numéro un. Ça n'a jamais été les gilets jaunes. Et pourquoi ça ne marcherait pas?
Je sais pas, c'est une question que je peux lancer, parce qu'il suffit de mettre de l'argent sur on l'a vu peut-être avec Emmanuel Macron, il suffit que les médias en parlent d'une façon un peu détournée, on peut un peu orienter la question.
Aujourd'hui, est-ce qu'ils visent tout simplement pas la place à Bruxelles, hein? Les élections, c'est bientôt.
C'est clair que, ouais, là, il y a ça. Vous avez participé, vous, au grand débat?
Oui. On a participé à un grand débat qui s'est tenu à Longueuil-Sainte-Marie la semaine dernière. D'ailleurs, le garant de la bonne tenue du grand débat était très content de nous voir y participer. Et sans vouloir dénigrer, heureusement qu'il y avait les gilets jaunes quand même, parce que sinon, ça se serait fait à 15, je pense. Donc, oui, alors... Comme je l'ai dit là-bas, on y participe parce qu'on joue le jeu de la démocratie telle qu'elle est affichée maintenant, mais sans aucune illusion, hein, bien sûr. On se doute bien de ce qui va en découler, et je pense pas qu'il y aura grand-chose qui ira dans le bon sens de mesures sociales vraiment indispensables et nécessaires dès à présent.
Ouais, de toute façon, on sait très bien que ça va rien donner. Il a dit depuis le début, il va pas changer de cap et il va pas modifier tout ce qu'il a prévu. Donc voilà. Faire un grand débat pour quelque chose qu'il ne va pas changer, à quoi sert-il ?
Vous pensez, là, sur d'un point de vue local, les élus locaux, on a l'élu de Noyon, la députée de Noyon, Carole Bureau-Bonnard, elle est venue vous voir. Parce que je sais que quand il y a une manifestation à Noyon, beaucoup de gilets jaunes s'arrêtent devant sa rue. Est-ce que vous avez eu des rencontres avec elle ?
Pas du tout.
Et les élus de Compiègne, par exemple, Jasco, son assistant ?
Nous, la seule personne qu'on a vue venir nous voir, c'est M. Vatin.
Ok. Et sur les gens de gauche ? Est-ce que vous avez eu...
Je tiens à te reprendre. Il y a aussi le maire de Longueuil-Sainte-Marie qui a fait la démarche de venir nous voir.
Ouais, qui est venu sur notre rond-point directement pour venir nous inviter justement pour le grand débat.
Et je pensais au maire de Tourotte, le maire PSF de Tourotte, les maires de Creil, tout ça. Est-ce que vous avez eu... Peut-être que c'est peut-être les autres comités. Est-ce que vous avez déjà des liens avec les autres comités ?
Alors oui, il y a des liens qui se font. Après, il y a certaines actions qui se font aussi plus ou moins en interne ou ne sont pas forcément discutées. Ça peut arriver. Après, honnêtement, quand il y a des rendez-vous, généralement, on en entend parler. Et là, on n'a pas entendu parler de visite de grand-mère comme là, ça a été demandé.
On va faire une courte pause musicale avec un titre middle class, c'est le titre Rendez-vous. Et on se retrouve juste après. Et je donnerai des infos, notamment, il y a un photographe qui vient régulièrement avec vous, qui fait des très belles photos. On pourra donner la page Facebook. Tout de suite, middle class sur Radio Graphite. Et on se retrouve juste après, on est ensemble jusque 19h. 18h33 sur les ondes du 94.9, on tombe toujours en compagnie de gilets jaunes compiénois, notamment du camp de, j'allais dire de Resson, non pas du tout, de Chevrières, pardon. Les autres sont partis fumer, voilà. Donc on est tout seul avec Geller. Donc cette manifestation, on rappelle le nom de Brice Le Gall, Brice Le Gall qui documente un petit peu vos manifs et qui documente votre lutte, puisque on peut retrouver des très belles photos de lui sur internet. C'est quelqu'un, comment il est arrivé sur les ronds-points?
En fait, bon, je ne me souviens plus, c'était lors de quel acte. C'était un week-end où on avait été à Paris, justement. On était revenu, donc on était sur notre rond-point. On était une petite dizaine, peut-être un petit peu moins, en train de parler dans une cabane. Alors, c'était anciennement, parce que depuis, on s'est quand même plutôt bien équipé, quand même. On a une belle petite cabane qui s'est encore agrandie dernièrement. Mais,
ouais, j'ai visité la cabane, c'est assez impressionnant.
Ouais. Ah, mais je pense que ça a changé. Il faudrait revenir parce que ça a encore changé.
Je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir trouver du boulot après la lutte et puis aller faire des cabanes chez les gens. Et puis,
normalement, si on suit Manu, on traverse la rue et puis on a du boulot.
Voilà, on traverse le rond-point. Alors,
normalement, mais je l'ai fait et j'ai trouvé un boulot, mais c'était que du bois. Okay. Donc, c'était pas bon. Mais donc on était installé en train de parler tranquillement. Et là, deux messieurs arrivent, nous disent bonjour, on vient de Paris. Alors, bon, entrez, n'hésitez pas. Surtout, mettez-vous au chaud parce qu'il faisait vraiment très, très froid. C'est la nuit qui a fait entre moins 7 et moins 8. Donc, il faisait vraiment très, très froid. On les invite à rentrer. On leur a servi un café. Et là, justement, donc Brice, à ce moment-là, on ne savait pas qui c'était, nous demande s'il nous autorise à prendre des photos. Alors, nous, on lui dit que oui, il n'y a aucun problème, il peut prendre des photos. On a parlé avec son binôme, parce que je tiens aussi à parler, on parle beaucoup du travail de Brice Le Gall. Il est en binôme avec Thibaut, je ne connais pas son nom de famille. Donc, c'est un binôme qui, lui aussi, fait de l'excellent travail, surtout dans le relationnel. Je pense que, s'il n'est pas là, donc, les relations ne sont pas les mêmes, il y a peut-être moins de confiance. Enfin, bref, c'est vraiment un binôme. Je tiens aussi à souligner le travail de Thibaut, qui est aussi très, très bon. Et on a de la chance d'avoir ces deux-là. Donc, sur cette soirée-là, il a fait quelques photos. Il nous en a fait part par mail, donc il nous les a envoyés. Et voyant la qualité de son travail, il nous demandait clairement s'il pouvait nous suivre de temps en temps. Donc on a dit vraiment, il n'y a aucun souci. Ça permet aussi à nous d'avoir des souvenirs et de montrer ce qui a été fait. Et depuis, il nous suit, alors pas tous les week-ends, mais presque, quasiment tous. Il a dû en rater un ou deux maximum, parce que il fait aussi d'autres choses. Et de temps en temps, il vient aussi lors de nos réunions, lors de certaines actions. Et ça nous permet à nous d'avoir de très belles photos. Et lui, surtout, moi, ce qui me fait plaisir, parce qu'on parle de ses photos, mais il a aussi une écriture exceptionnelle.
Ouais, il y a des textes qui autour.
Les textes sont vraiment forts, ils sont touchants. Et surtout, enfin, nous, ce qui nous fait du bien, c'est de voir de la vérité. Parce que vraiment, ces textes sont pleins de vérité. On voit vraiment les vraies choses. Et le tout fait que, sincèrement, c'est vraiment touchant. Les images sont fortes. On voit bien les émotions qui ressortent. Et c'est vraiment un travail exceptionnel. Et j'invite vraiment tout le monde à aller voir, même si c'est... Même ceux qui ne sont pas d'accord avec les gilets jaunes, mais rien que par curiosité, regarder un petit peu le travail qu'il effectue, c'est vraiment exceptionnel.
Alors c'est bricelegal.com, on mettra ça sous la page Facebook de Radio Graphite.
Merci.
J'essaie de
lui.
Le contacter en fait pour faire une interview avec lui, pour voir un peu comment lui voit le mouvement de l'intérieur. Donc j'espère que prochainement ça puisse se faire. Comme il est sur Paris, on n'arrive pas trop à avoir de rendez-vous, mais on essaie de caler ça.
Ah, et puis il a beaucoup de boulot.
Comment vous voyez la suite du mouvement? Comment vous pensez que vous allez encore tenir longtemps sur les ronds-points
On ne lâchera rien.
Et le gouvernement, est-ce que vous imaginez un remaniement si on part sur le départ d'Emmanuel Macron, est-ce qu'avant il peut y avoir une dissolution de l'Assemblée ou ce genre de choses?
Ça, nous, c'est des choses qu'on pourrait espérer. Après, on n'est pas dupes, on voit très bien un petit peu sa ligne de conduite avec son arrogance incessante et surtout le fait qu'il dit qu'il ne changera rien. Parce que très clairement, aujourd'hui, on l'observe tous, hein, ces grands débats, c'est uniquement le fait de pouvoir se payer.
C'est de la communication quand même.
Oui, c'est de la communication, mais c'est uniquement fait pour les européennes. Et comme ça, c'est nous qui payons pour les européennes. Il se fait un beaucoup de pub à lui tout seul. Honnêtement, il ne démissionnera pas, ça on le sait très bien. L'Assemblée ne se dissoudra pas comme ça, on le sait très bien. Mais nous, le mot d'ordre, et on le dit tout le temps, on l'entend sur tous les ronds-points, sur toutes les actions, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Et je pense que finalement, c'est lui notre meilleur coup de pub parce qu'à chaque fois qu'il parle, à chaque fois, il exaspère de plus en plus les gens et plus ça va. On nous parle d'essoufflement du mouvement. Moi, si je vous parle du camp de Chevrières, à chaque fois qu'il parle, à chaque fois, il y a quelques personnes nouvelles qui viennent dès le lendemain.
En fait, c'est un gilet jaune infiltré, hein, c'est ça, ouais. En fait, c'est vous qui l'avez placé.
C'est quasiment ça.
J'aimerais juste rajouter une chose, en fait. On est bien conscient qu'il n'est pas responsable de la situation des 20 dernières années. Je pense que ce qui a fait sortir les gens dans la rue à un tel niveau... C'est surtout le mépris que cette personne-là est venue rajouter sur le mécontentement et sur la souffrance des gens. Voilà, principalement. Parce que certaines personnes ont voté pour lui, ont cru en son discours, Et je pense qu'ils attendaient beaucoup plus de soutien venant de la part d'un président. Et on peut s'apercevoir qu'à chaque fois qu'il est à l'extérieur du pays, les mots qu'il a concernant le peuple français ne sont pas du tout valorisants, bien au contraire. C'est pour pas utiliser des mots malvenus, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas du tout valorisant pour le peuple français.
Pourtant, il y a plein de communicants autour de lui. Comment ça se fait que, enfin, on se pose souvent cette question-là. Comment ça se fait qu'il dérape autant ?
S'il te plaît, je voulais juste placer celle-ci parce que ça me semble très important de parler de Manu quand même, dans le sens où il fait que des conneries, il fait que de la merde, ça c'est clair. Ceci étant dit, la seule chose que je tiens à dire qu'il fait bien, c'est qu'il m'a permis de rencontrer des gens. Je parle pas de Galore parce qu'on est de la même famille, lui et moi, mais de gens qui sont superbes, de toute catégorie sociale, de toute classe sociale, de tout âge. Et grâce à lui, je lui dis merci Manu de m'avoir fait rencontrer ces gens qui sont géniaux. On y va, on y croit, on ne lâche rien.
Ouais, c'est toujours de toute façon, toujours dans tout ce qui est. Souvent, quand on est dans la merde, on arrive à trouver du bonheur malgré ça, quoi. Malgré la difficulté. Non,
on trouve du bonheur, mais au-delà de ça, c'est même plus que du bonheur, en fait. Parce que nous, maintenant, c'est ce qu'on dit toujours, on n'est pas un groupe, maintenant, c'est une famille. On se voit presque tous les jours, on se côtoie. Et lorsqu'on rentre chez nous, la première chose, c'est quand est-ce qu'on y retourne. Souvent, nous, c'est ce qu'on dit, on a réussi enfin à retrouver la fraternité qui a été perdue depuis longtemps. On a réussi à la retrouver. Maintenant, il ne nous faut plus que retrouver la liberté et l'égalité. Ça, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, pour répondre à la question que tu avais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a des gens pour lui qui s'occupent de la com, on voit très bien que, alors je vais être un petit peu dur pour lui, mais c'est qu'une vérité, c'est qu'un gamin, c'est un gamin au niveau politique qui a son petit jouet, donc il a son jouet, il fait un peu ce qu'il veut. Et donc, même quand ses coms lui disent « il faut faire ceci, il faut faire cela », lui, il n'en fait qu'à sa tête. Il est arrogant, tout le monde le voit, on a juste à l'écouter parler. Donc là, même s'il a des coms, il a des conseils, ben en fait, il s'en fout. Lui, il dit ce qu'il pense et souvent, c'est ce qu'il lui reprochait. Hein. On l'entend des fois, il y a certaines fuites sur des communications lors de leurs réunions qui disent que voilà, il ferait mieux de suivre ce qui a été dit plutôt que de faire un peu trop d'impro. Dès qu'il improvise, il dit que des conneries.
J'ai rencontré beaucoup de gilets jaunes qui disaient ouais, on déteste la politique, on est blasé de la politique. Et vous n'avez pas l'impression de faire de la politique dans le sens noble du terme, puisqu'en fait, la politique, c'est la vie de la cité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de redonner un peu les lettres de noblesse à la politique?
Alors, il faut savoir que de toute façon, toute manifestation à la base est politique. Donc lorsque nous, on parle d'un mouvement apolitique, c'est qu'on n'est ni FN, on n'est ni
le PS. C'est apartisan, quoi.
Voilà, nous, c'est comme un maire qui parle à la télé et qu'on voit marqué sans étiquette. Nous, c'est exactement ça. Donc forcément, dès qu'on manifeste et qu'on est contre la politique d'aujourd'hui, je précise, on fait de la politique. Ce qu'il y a, c'est qu'on en a marre du système politique qui est présent aujourd'hui et qui est là depuis plus de 40 ans, qui fait qu'il n'y a que sur les petits comptables, on fait des cadeaux aux gros. Et là, on en a vraiment marre. Et donc oui, c'est politique, mais contre le système politique d'aujourd'hui. On n'est pas contre la politique, on est contre le système qui est en place aujourd'hui, qui fait que c'est toujours les mêmes qui payent et on ne peut plus vivre décemment.
Il y a eu beaucoup de vos propositions, c'était des propositions qui ont été portées par Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Quand on lit son programme, il y a beaucoup de choses qui collent. Comment ça se fait que ça n'a pas matché entre la France Insoumise et justement les Gilets jaunes? Alors que si on fait un copier-coller, finalement, vous demandez du coup des référendums d'initiative des citoyens, changement de la Constitution, remettre à plat du coup le système de taxes.
Alors là, on a un petit peu tout dit. Tu as parlé de changement de Constitution, tu vois, ça correspond vraiment à ce qu'on dit. Sauf qu'au bout d'un moment, la politique, ce n'est pas qu'un programme. Il y a aussi un monsieur qui est à la tête de ça. Donc moi,
Donc c'est plus, c'est plus la personne.
Bah, si on voit monsieur Jean-Luc Mélenchon qui parle toujours de manière hystérique, nous, on parle par exemple quand on parle de Manu. Alors désolé, j'en ai marre de dire monsieur Macron, parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas beaucoup de respect pour cet homme. Mais quand on parle de Manu, on parle de son arrogance, on parle bien de sa manière d'être qui nous dérange beaucoup. Donc là, c'est un petit peu pareil. Si on parle de monsieur Mélenchon, il est un peu hystérique. Il paraît même des fois, on croirait qu'il fait des crises, quoi. Des dénervements, il est sur les nerfs. J'ai du mal à me dire que cette personne-là peut nous représenter.
Et François Ruffin, qui est venu plusieurs fois en fait sur les ronds-points, qui va sortir d'ailleurs un film sur les Gilets jaunes.
Bah, j'aimerais bien que ce monsieur vienne sur nos ronds-points pour
avec
qu'on puisse.
Alors, il est venu à Resson. Ouais.
Il est venu à Resson. J'aimerais le rencontrer en tout cas sur celui de Chevrière pour discuter avec lui. C'est quelqu'un qui représente bien. Et encore une fois, il va s'il fait vraiment ce qu'il dit, faire le changement de constitution que nous demandons. Après, en revenant sur monsieur Mélenchon, c'est quelqu'un qui de par caractère. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est quelqu'un qui peut aimer le pouvoir. Et s'il aime le pouvoir, pourquoi changer ?
Bah, si on met un pouvoir révocable, on peut partir. Hein.
S'il le met en place.
Là, vous le voyez comment avec les élections européennes ? Est-ce que vous pensez que les politiques vont venir vous taper un petit peu du pied ? Est-ce que ça va ouvrir un peu le débat? Est-ce que là ils vont avoir un intérêt de venir vous parler? On l'a vu avec les listes gilets jaunes, soi-disant gilets jaunes. Tous les syndicats vont essayer d'avoir leurs gilets jaunes sur les listes. Vous le voyez comment? Vous voyez plutôt du bon oeil en disant c'est bien, on va peut-être mettre nos préoccupations au cœur du problème, au cœur du débat, ou vous le voyez du mauvais genre en disant on va se faire bouffer, on va se faire avoir par le système?
Alors les élections c'est bien, mais nous c'est vrai que je pense que ce qu'on attend c'est une oreille attentive, un minimum une écoute. Monsieur Macron a organisé le grand débat, mais au final, c'est pas avec nous qu'il vient parler. Hein. Il refait le congrès des maires qu'il a gentiment évité au mois de juillet. Donc, c'est quand même compliqué d'espérer avoir quelque chose de ces gens-là, quoi. Parce que les partis politiques, quels qu'ils soient, leurs prises de parole, elles sont très très frileuses. Vraiment très très frileuses. Ils ont un peu les fesses entre deux chaises, ils savent pas si
ils sont dans le système et en même temps il faut le renverser. Quoi.
Exactement, mais c'est ça.
De toute façon, on l'a vu depuis le début qu'ils essayent aussi de nous récupérer. Il y a juste à regarder un petit peu le FN.
Exactement.
Avec. Je vais pas
Fernand
dire.
Le Philippot, hein.
Voilà, qui, je crois même qu'il a fait déposer le gilet jaune. Ce qui est quand même inadmissible à mon sens, parce que nous ne sommes pas du tout.
Il a dit qu'il a fait ça pour protéger le.
Oui, bien sûr, bien entendu, c'est pour ça aussi qu'il s'affiche en photo avec un gilet jaune, en disant voilà, les gilets jaunes sont avec moi, et on s'aperçoit que tous les gens qui sont derrière sont des gens de son cabinet. Il joue sur notre image en disant vous voyez, on est gilets jaunes, ils sont avec nous, alors que pas du tout, on n'est pas du tout avec eux. Enfin, moi, en tout cas, je parle en mon nom, je ne suis pas du tout pour le Front National. Après, ça me concerne, attention, hein. Ça ne me concerne que moi. Mais voilà, ils veulent tous récupérer plus ou moins l'image. Je vais dire, tant mieux, c'est qu'on intéresse. Mais après, voilà, ça ne nous intéresse pas d'être avec eux. Il faut vraiment savoir, c'est que nous, on est vraiment apolitique. Alors, ils peuvent venir nous voir, ils peuvent venir discuter, ça, il n'y a aucun problème. Nous récupérer, ça, c'est peine perdue, autant le dire.
Il y a une manifestation samedi, il y a un appel à manifestation à Compiègne.
Exactement.
Donc rendez-vous à l'hippodrome à partir de
13h.
Venez avec votre gilet jaune, évidemment.
Bien sûr.
Est-ce que les syndicats peuvent venir avec leur chasuble rouge?
Ça, il n'y a aucun problème, bien entendu, puisque c'est
c'est un but.
C'est vraiment un rassemblement. Donc, on a fait un premier jet, c'était mardi, il me semble, à Beauvais.
Hein.
Ça s'est très bien passé. C'était un petit peu court, mais ça s'est très bien passé.
C'était un petit peu beaucoup jaune.
Mais ouais, voilà, c'est vrai que le gilet jaune était bien représenté. Ouais. Après, le but n'est pas une guerre de savoir qui est le plus présent ou pas. Le but, c'est vraiment d'être ensemble.
C'est de gonfler les rangs.
Voilà, c'est qu'il y ait de la masse. Donc là, samedi, à Compiègne, donc rendez-vous 13h, je le rappelle, pour ceux qui viennent seulement d'allumer le poste. Donc on espère vraiment voir tout le monde, syndicats, syndiqués surtout, et gilets jaunes, pour être vraiment ensemble, pour montrer qu'au bout d'un moment, il n'y a pas... Enfin, tout le monde en a marre. Tout le monde aimerait lutter contre cette politique qui est en place. Et donc c'est pour ça qu'être rassemblés, être le plus nombreux, fera qu'on se fera un peu plus entendre.
L'action, c'est quoi? C'est de venir, c'est de défiler en ville, c'est de faire quelque chose en statique en centre-ville? C'est secret pour le moment, pour pas que la police entende
alors,
et vous bloque?
Je vais dire dans les grandes lignes, parce que oui, non, il y a des choses qu'on se garde quand même, parce qu'on n'aime pas. Donc déjà, elle n'est pas déclarée, donc ne me demandez pas le trajet, il ne sera pas divulgué. Ça va être une marche.
Des fois, vous ne connaissez même pas, des fois, c'est ça en plus.
Je ne connais pas du tout. donc voilà, ça va être une marche.
On va avoir la police qui va vous attendre en bas.
Bon, ça va, on a appris à courir vite maintenant. Ça va être une marche.
Ouais, c'est pas statique.
Avec de temps en temps, non, pas statique. Vous savez, nous, on aime bien bouger maintenant. Il fait froid quand même, donc il faut bouger. Avec peut-être différentes actions sur des points précis, mais ça ne va pas des actions qui durent une ou deux heures. Hein. Ça va vraiment être des choses... assez
sporadique.
Voilà, exactement. Avec nos slogans, avec nos pancartes. Et voilà, ça va être gentillé. Je tiens à insister aussi parce qu'on a des dames aujourd'hui qui ont été distribuées des flyers justement pour en faire un peu de publicité, dont Amélie est si présente d'ailleurs. Les gens l'ont regardé un peu comme si c'était une extraterrestre. Gilet jaune, ils ont peur.
C'était à Compiègne, ça?
Voilà, exactement, sur Compiègne, centre-ville et sur Carrefour. Les gens regardaient, c'est les méchants gilets jaunes, donc ils étaient un peu effrayés, alors qu'ils sont là 80% d'accord avec nous, ce qui est, encore une fois, je le disais tout à l'heure, étonnant. Donc, elle a distribué des flyers. Nous, le but, c'est que ça se passe très bien. On n'est pas là pour qu'il y ait de la casse, bien au contraire. On va même faire en sorte, en tout cas le groupe de Chevrières, de faire en sorte que dès qu'il y a quelque chose qui commence à chauffer, on va y aller pour aller calmer la situation, voire même, et ça on l'a déjà fait, si quelqu'un ne veut pas écouter, c'est de le sortir carrément de la manifestation. Ça, on l'a déjà fait et on est prêt à le refaire parce que nous, on ne veut aucun problème, aucun
débordement. C'est plus simple quand même dans les villages, enfin dans les petites villes comme Compiègne, en général on se connaît tous, les gens, même dans les manifestations, les têtes, voilà.
Non, c'est pas forcément si simple que ça. Non.
C'est une question de nombre en fait, c'est surtout une question de nombre. Gérer une manifestation avec 100 personnes, ça reste gérable, quand c'est 1000, c'est quand même déjà une autre histoire.
Mais là... Monsieur Marigny peut être tranquille.
En plus, il va vous recevoir, je crois. Il a, du coup, vous a invité à aller boire un verre avec lui.
Bah, il va nous recevoir. Là, on a vu quand même qu'il nous craint un peu parce qu'il a fait une gentille lettre pour les commerçants, alors qu'on ne veut pas de casse. Donc,
surtout pas de casse.
Et il a fait une lettre aux commerçants en disant attention, baissez vos rideaux, etc. Exactement.
Bah, en tout cas, de multiplier de vigilance contre nous. Enfin, c'est pas dit clairement contre nous, mais bah, en tout cas, on peut le prendre comme ça parce qu'on l'a vu la lettre où il s'est même permis d'écrire de manière manuscrite. On veut pas de case, donc les commerçants, soyez tranquilles. On en a entendu certains qui nous disaient oh, on veut pas être bloqué, mais on va faire une marge. Donc, si vraiment il y a un léger blocage, ça va durer quoi? Allez,
c'est quoi, 10 minutes,
un quart d'heure,
20
voilà,
minutes au grand maximum.
Ça va pas durer très longtemps.
Souvent, ce qui bloque, c'est justement les forces de l'ordre qui se mettent dans les rues.
Rigolez pas, c'est vrai. Moi, j'ai eu l'expérience sur. Alors, je vais pas balancer si c'était la gendarmerie ou la police, parce que c'est pas très bien, mais on avait fait un blocage au niveau d'un rond-point. Alors, blocage filtrant, j'insiste, hein, vraiment, parce que souvent on dit oh, « vous nous bloquez ». Non, c'est filtrant toujours, donc les gens peuvent passer. Et à un moment, il y avait deux ronds-points, et on faisait passer les gens par le deuxième rond-point. Et en fait, le deuxième rond-point s'est trouvé bloqué parce que j'allais dire qui ?
La police ?
Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, s'il vous plaît. Les forces de l'ordre se sont trouvées à faire un petit jeu, à savoir qui allait bloquer le plus. C'était pas nous du tout. Les forces de l'ordre se retrouvent des fois, bon, indirectement, on l'a vu à Noyon, à bloquer la circulation alors qu'on n'y était plus, on était passé déjà. Donc oui, souvent, il y a aussi les forces de l'ordre qui bloquent. Maintenant, nous, voilà, ça va faire une marche. Si on bloque, ça va être vraiment un quart d'heure maximum. Voilà, on peut perdre un quart d'heure dans une journée, ça va pas tuer personne.
Les actions, alors tout à l'heure on parlait de la violence, est-ce que du coup bloquer un pays c'est la bonne solution, le bon outil pour que ça lâche du lest, parce que du coup la violence est contre vous, ça se retourne contre vous, alors que finalement ça fait quand même peur à l'État. Si on marche simplement, l'État, bon bah c'est bien, vous faites une petite randonnée, on s'en fout un peu. Est-ce que le blocage économique, comme vous avez pu le faire avec par exemple la SANEF, les autoroutes, en laissant les portiques ouvertes, est-ce que ça a un réel impact? Est-ce que d'un coup ils se disent on est en train de perdre du pognon, ça serait peut-être bien qu'on lâche un petit peu? Parce que c'est ça, hein, Emmanuel Macron a lâché au moment où ça commençait à avoir des petits problèmes économiques.
Oui, bien sûr, de toute façon il faut s'attaquer à l'économie de ce pays. Effectivement, si tout le monde pouvait nous rejoindre, que ce soit tous les gilets jaunes de France ou que ce soit les syndicats à bloquer le pays, je parle bien des têtes de syndicats et qui ont acheté ces pauvres routiers malheureusement, qui auraient été bien utiles pour bloquer ce pays. Ouais, on peut faire quelque chose. Et là, Manu, il a de quoi trembler. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de fusionner. C'est pas vraiment le terme exact, excusez-moi, mais de faire quelque chose avec les syndiqués. J'insiste bien. Et non pas les syndicats, et surtout pas les têtes. Mais les gens qui sont gilets jaunes, syndiqués, pour avoir de la masse. Et effectivement, on peut peut-être essayer de faire quelque chose ensemble. En tout cas, l'appel est lancé. Et je rappelle bien, les syndiqués, si vous avez besoin du gilet jaune pour action, on est là.
Je crois que d'ailleurs les syndicats, je crois qu'il y a certains syndicats qui ont des gilets jaunes en plus floqués avec le syndicat.
Ah oui, il y en a, ils nous disaient même qu'ils n'osaient pas venir avec sur nos ronds-points. Donc on a déjà fait une réunion avec eux, on leur a dit qu'il n'y avait vraiment aucun problème. Je tiens juste à préciser aussi, parce que souvent on nous dit, ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait d'être un petit peu vendu, d'avoir accepté les syndicats, il ne faut pas oublier que les syndiqués, donc encore une fois, on insiste sur ce mot-là. Les syndiqués sont des personnes qui travaillent à longueur de journée. Même pendant la réunion, ils sont venus, ils avaient des dossiers encore pour travailler. Donc c'est des gens qui ne comptent plus les heures pour pouvoir défendre les ouvriers. Donc des fois, malheureusement, ça ne peut pas aboutir parce qu'à la tête, ils décident de certaines choses. Mais on ne peut pas mettre ces gens-là de côté. Est-ce que c'est des gens vraiment qui donnent de leur temps pour défendre les ouvriers? Et à partir du moment où nous, on donne de notre temps pour défendre le peuple français, pourquoi on n'accepterait pas ceux qui perdent leur temps? Alors j'y perds parce que malheureusement, souvent, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, ils mettent beaucoup de temps et de sueur à essayer de défendre les ouvriers. Ils font la même chose que nous, juste à une échelle un peu plus petite. Nous, eux, ils se limitent aux ouvriers, nous, c'est au peuple entier. Donc, welcome, quoi, ils sont bienvenus avec nous.
Les actions de blocage économique à Compiègne, c'est toujours un petit peu compliqué. Souvent, c'est un terme, la base de Canly qui en fait les souffrances. Comment vous avez réfléchi à un autre mode d'action? J'ai assisté à du coup un blocage de les salariés, enfin les chauffeurs étaient plutôt de votre côté. Ils venaient vous discuter avec vous.
Bien sûr.
Certains vous proposaient même des cafés. J'ai pu voir, si tu veux, on a une machine à café là-bas, on peut te ramener un café. Est-ce que vous pensez à d'autres actions? Est-ce que c'est compliqué en fait? C'est quoi l'économie à à Compiègne à part alors, attention, c'est l'hippodrome, il faudrait bloquer attention, une course de cheval.
Encore une fois, alors les courses, on a déjà tapé dedans à Chantilly, par exemple. Ouais. Attention, nous on s'appelle OK les gilets jaunes de Compiègne. Bon, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est basé à Chevrière, mais encore une fois, notre zone d'action ne se limite pas à Compiègne et ses alentours. Là, il n'y a pas longtemps, on était sur une action au Plessis-Belleville. On a même déjà été sur une action en région parisienne. Donc, on ne se contente pas à rester qu'au niveau local. On s'étend, on essaye de voir ce qui est le plus faisable. Après, on parlait tout à l'heure sur les actions économiques. Oui, forcément, aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. S'il veut qu'il nous entende, pour nous entendre, il va falloir taper dans les porte-monnaies. Alors, directement, il ne réagit pas. Des fois, les gens nous disent, vous pensez vraiment qu'à taper sur la SANEF, vous allez vraiment obtenir quelque chose. Alors, oui, on sait que la SANEF, ils vont avoir certains remboursements, certainement, mais n'empêche qu'au bout d'un moment, celui qui dirige la SANEF, ça reste...
Ça fait pression, bien sûr.
Au bout d'un moment, il va prendre son téléphone, vulgairement parlant, il va prendre son téléphone et il fait « Manu, là, j'en ai marre. » Au bout d'un moment, c'est mon porte-monnaie qui est touché. Alors, quand on touche aux nôtres, c'est vrai que ce n'est pas très grave, mais quand on touche à ceux qui sont tout là-haut, là, bizarrement, la répercussion n'est plus la même. Et à partir du moment où ce monsieur va commencer à en avoir marre de perdre un petit peu d'argent de son propre porte-monnaie, va sortir le téléphone et dire hey « Eh Manu, là, il va falloir quand même que tu fasses quelque chose parce que même nous, ça nous gonfle. »
Ouais, je prends régulièrement tous les jours l'autoroute et j'avais échangé avec la ministre des Transports sur France Inter et je lui ai posé la question de la renationalisation des autoroutes, que c'était un peu un scandale, etc., que l'argent pouvait rentrer dans les caisses de l'État. Et elle m'avait répondu très simplement qu'elle se mettait à table avec les sociétés d'autoroutes et qu'elle discutait. J'avais l'impression un peu qu'elle prenait le thé avec eux et qu'il n'y avait pas vraiment de négociation.
Mais
quoi.
C'est clairement ça.
Exactement. De toute façon, la négociation, il n'y en a jamais vraiment eu. Il suffit, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, quand on prend par exemple l'exemple de la prime de 300 euros pour les policiers, enfin en tout cas les CRS, il faut savoir que ça, pour source sûre, c'est faux. Hein. Ils ne l'ont pas touché. Hein.
Ils
n'ont
pas, touché. Okay.
Donc il y a eu des discussions, il met des choses en place, puis après il dit « Ah bah au fait, je ne peux pas faire ça. Ah bah je ne le fais pas. » Alors qu'il l'a annoncé. Mais ça, bizarrement, on n'entend pas beaucoup parler.
Là, actuellement, il y a la fermeture également de la maternité de Creil. Est-ce que vous allez apporter votre soutien là-bas? Parce que je sais que vous ne faites pas seulement de la politique, on va dire, dans le coin. Il y a aussi des actions sociales. Vous avez aidé, il y a un SDF qui vous a apporté votre aide.
D'ailleurs, salut Thierry.
Ouais, Thierry, on te salue.
Donc voilà, donc c'est recréer vraiment une solidarité en dehors des gilets jaunes. Quoi.
Malheureusement, on n'a que des journées de 24 heures et concilier la vie de famille, le mouvement, les actions, le métier, les actions qu'on peut engager avec, comme vous le disiez, ASDF qui est sur Compiègne. On a entamé des démarches administratives pour qu'il récupère des papiers, monter un dossier de sécurité sociale pour qu'il récupère une carte vitale. Et tout ce qui va à la suite, en espérant que ça aboutira. Malheureusement, on n'a que 24 heures. On aimerait bien faire plus, mais voilà. Le nombre qu'on est, on fait vraiment mieux et on fait ce qu'on peut. Et on se bat sur tous les terrains du social pour venir en aide aux gens. Parce que quand on vient me parler de violence, pour moi, la vraie violence, c'est celle que l'État impose à la population, à savoir la violence sociale. Des gens qui vivent chez eux sans pouvoir se chauffer, des gens qui ne peuvent pas se nourrir, des gens qui font un repas sur trois pour laisser à manger à leurs enfants. Enfin voilà quoi, des gens qui s'occupent de personnes âgées et qui ont 1 minute 30 pour faire leur toilette. Je pense que pour moi, la violence, elle est celle-là et elle est au quotidien.
C'est se faire licencier après 40 ans de travail.
Par exemple, entre autres.
Et par exemple, je donne un autre exemple aussi, c'est au niveau de nos actions. Je prends par exemple la base qui est à côté de chez nous, quand même, qu'on a bloqué quand même régulièrement, donc à côté du rond-point. Il y a une société...
De transport, c'est ça ?
De Proa, voilà, mais il y en a beaucoup là-bas. Il y a Stokomanie, enfin bref, il y en a plusieurs. Mais il y a surtout une société qui s'appelle ProAPro, qui, nous on le sait quand même, ils donnent de la nourriture dans les maisons de retraite et tout ça. C'est une société, dès qu'on fait nos blocages, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un passage pour que eux, les camions, puissent passer. On ne bloque pas ces camions-là. Tout simplement parce que tout le monde a plus ou moins soit de la famille, une maman retraitée ou même une grand-mère retraitée qui est en maison de repos. Voilà, on ne serait pas content qu'ils ne puissent pas manger parce que les camions ont été bloqués. Par exemple, on ne les bloque pas, on bloque tous les camions sauf eux.
Comment vous prenez vos décisions en collectif? Il y a des AG, il y a un vote, il y a un référendum d'initiative citoyenne au sein des Gilets jaunes à l'intérieur. Comment ça se déroule?
En fait, il faut savoir que dans notre groupe, on a plusieurs administrateurs. On est, il me semble, 14, je crois. On est 14 administrateurs, donc on se réunit, alors pas super souvent non plus, parce qu'on se voit assez régulièrement sur les ronds-points. Donc on discute plus ou moins des actions, on discute de la vie du camp, on discute d'énormément de choses. Et ensuite, on se réunit tous ensemble au rond-point, bien sûr, parce que dans les salles, ce serait moins drôle. Donc on se réunit tous ensemble autour du feu sur nos ronds-points pour discuter des différents points et on fait des votes à main levée. et c'est la majorité qui décide. Donc des fois, nous-mêmes, la majorité des admins, on n'est peut-être pas forcément d'accord, mais vu que la majorité a décidé, eh ben, on suit le mouvement de la majorité des votes.
Pour la vie sur le camp, la nourriture, etc., les gens peuvent vous apportent à manger, peuvent le faire. Enfin, comment ça se déroule? On a vu des gens qui ont apporté de la soupe avec des laxatifs. Est-ce que vous faites attention à ce qu'on vous apporte ou c'est un peu de la psychose?
Alors, honnêtement, non, on fait pas attention.
Il n'y a pas de psychose chez nous.
Il n'y a pas un goûteur? Il n'y a pas une personne qui se sacrifie pour le groupe?
Il n'y a pas de cow-boy non plus.
Si parfois on se demande si Richard il goûte pas un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, Richard, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France.
Ça, c'est qui Richard?
Dédicat. Oh, faut mieux. Si on commence à parler de Richard, je pense qu'on va
y passer. Il faut venir.
Il faut l'inviter. C'est un des membres du groupe.
Donc il n'y a pas de goûteur chez vous. On peut vous apporter. Vous avez besoin de quoi là, aujourd'hui sur les camps?
Tout ce que les gens peuvent nous ramener, on accepte tout. Encore une fois.
Et on les remercie d'ailleurs parce qu'ils continuent à le faire. Mais tout le monde est le bienvenu. Le rond-point, c'est les gilets jaunes, mais c'est aussi le peuple. Donc c'est la maison du peuple.
Et tout ce qui ne servira pas directement, de toute façon, nous, on trouvera toujours un moyen de le redistribuer aux plus nécessiteux, à ceux qu'on a vraiment besoin.
Par exemple, Thierry.
Voilà, ce matin, j'étais au Café Sourire aussi. Au pire des cas, si on a des dons...
Café Sourire, c'est à Compiègne.
Voilà, à Compiègne, qui s'occupe des personnes sans abri et en grande difficulté. Donc au pire des cas, quoi qu'il en soit, nous, s'il y a des dons dont on n'a pas forcément l'utilité, ce sera redistribué à ce genre d'association, par exemple.
On se découvre des nouveaux talents, alors entre le bricolage, j'ai vu que vous avez fait un chauffage central dans la cabane.
Merci François.
Du coup, vous avez découvert des nouveaux talents chez vous?
En fait, c'est vraiment la vie en communauté. En fait, chacun amène sa pierre à l'édifice en fonction de ses compétences, de ses qualités, de sa motivation, de son implication.
On apprend des autres.
Voilà,
c'est tout à fait.
Et à tout ce petit monde-là, oui, on est dans la construction de la cabane comme on est dans la construction de l'avenir.
Qu'est-ce que vous allez faire une fois que la lutte sera finie et que vous aurez peut-être eu ce que vous voulez?
On va trouver une autre cause à battre.
Personnellement, si j'avais un petit message à passer à tout le monde, quand tout ce grand bordel sera terminé, et si par Dieu, bon, je suis complètement agnotiste, mais s'il y a quelqu'un là-haut que ma volonté soit faite, c'est que notre cabane soit toujours debout. Malheureusement, je pense qu'un
jour... Vous êtes sur un terrain de la SANEF?
On ne sait pas, ils sont déjà pas d'accord entre eux, enfin bref, c'est un gros bordel, mais pour le moment c'est ce qui nous couvre. C'est que si notre cabane elle est encore debout, on pourra en faire don à un SDF. Je pense notamment à Thierry, et par rapport à sa vie qu'il a aujourd'hui, je serais fin heureux de pouvoir lui offrir. Je pense qu'à ses yeux ça serait un palace, un 5 étoiles. On peut se chauffer, il y a de quoi manger, il y a de quoi dormir, enfin bref. On est à l'abri et il y a un petit chez-soi. Je sais que c'est pas grand-chose, parce que tout le monde a mis sa petite pierre à l'édifice qui a fait qu'aujourd'hui on a ce superbe camp, qui est un vrai village gaulois, on se croirait même chez Astérix. Mais voilà, s'il pouvait rester de ses vestiges, ça serait pour les donner à ces gens-là.
Ok, bon après il peut trouver un vrai logement.
Bien sûr, c'est la priorité absolue.
Mais voilà, il faut aussi que certaines personnes se bougent, notamment aussi bien en local qu'au niveau national, et surtout Manu, et parce que voilà, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de misère en France, et ces gens-là, on ne peut pas les laisser comme ça dans la rue. Quoi.
Et tout découle d'une volonté politique, donc forcément.
Donc du coup, vous donnez rendez-vous à nouveau demain à Compiègne, à partir de... L'heure, c'est quoi déjà?
Samedi.
Ils peuvent venir demain, on n'y sera pas, mais tout le monde peut venir à Compiègne, on n'interdit pas.
Demain, on peut passer sur votre camp.
Ce n'est pas que demain, c'est tous les jours. À partir du moment. La porte est toujours grande ouverte. Alors, on la ferme parce qu'il fait froid, mais il ne s'est pas fermé à clé. Tout le monde peut venir et tout le monde est là, bienvenu. Bien au contraire, venez nous découvrir, arrêtez d'avoir peur, parce qu'au final, on est juste des gens comme les autres avec un gilet par-dessus.
Et donc, la manif, c'est?
La manif, c'est à Compiègne.
Samedi, à quelle heure?
À 13h,
à l'hippodrome.
Merci beaucoup.
J'ai un petit message à passer pour Jérôme, qui je pense aurait bien aimé être là. Gilets jaunes, quel est votre métier? À vous.
Et petit bisou aussi à Dominique, qui est un membre de chez nous, qui a fait un infarctus il n'y a pas très longtemps. Alors on lui fait tous un très très gros bisou.
Allez, bisous Dominique.
Merci d'être venu chez nous ce soir. Et
merci
puis,
de nous avoir accueillis.
Vous revenez quand vous voulez. On rappelle également Brice Le Gall sur Internet. On mettra le podcast sur Internet et notamment tous les liens. Et la manif, c'est samedi à partir de 13h à l'hippodrome de Compiègne. Et bien merci. Et puis bonne soirée. Et puis à bientôt.
Merci à bientôt.
Bonne soirée. Merci.
Merci.